Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 4. Sentiments de Luther et de Staupitz, ordre de comparaître, alarme et courage, l'électeur chez le légat, départ pour Augsbourg, séjour à Weimar, Nuremberg. Sans doute, l'arrivée de Mélenchon procura une douce distraction à Luther dans un moment si critique pour lui. Sans doute, dans les doux épanchements d'une amitié naissante et au milieu des travaux bibliques auxquels il se livrait avec un nouveau zèle, il oublia quelquefois Rome, Prierio, Léon et la cour ecclésiastique devant laquelle il devait comparaître. Cependant, ce n'était là que des moments fugitifs, et ses pensées se reportaient toujours sur le tribunal redoutable devant lequel d'implacables ennemis l'avaient fait citer. De quelle terreur cette pensée n'eût-elle pas rempli une âme qui eût cherché autre chose que la vérité? Mais Luther ne tremblait pas. Plein de foi en la fidélité et en la puissance de Dieu, il demeurait ferme, et il était tout prêt à s'exposer seul à la colère d'ennemis plus terribles que ceux qui avaient allumé le bûcher de Jan Hus. Peu de jours après l'arrivée de Mélenchon, et avant que la résolution du pape qui transportait de Rome à Augsbourg la citation de Luther pût être connue, celui-ci écrivit à Spalatin « Je ne demande pas, lui dit-il, que notre souverain fasse la moindre chose pour défendre mes thèses. Je veux être livré et jeté seul entre les mains de tous mes adversaires, qu'il laisse tout l'orage éclater sur moi. Ce que j'ai entrepris de défendre, j'espère pouvoir le soutenir avec le secours de Christ. Quant à la violence, il faut bien lui céder, néanmoins sans abandonner la vérité. » Le courage de Luther se communiquait. Les hommes les plus doux et les plus timides trouvaient, à la vue du danger qui menaçait le témoin de la vérité, des paroles pleines de force et d'indignation. Le prudent, le pacifique Staupitz écrivit à Spalatin le 7 septembre « Ne cessez d'exhorter le prince, votre maître et le mien, à ne pas se laisser épouvanter par le mugissement des lions. Qu'ils défendent la vérité, sans s'inquiéter ni de Luther, ni de Staupitz, ni de l'ordre. Qu'il y ait un lieu où l'on puisse parler librement et sans crainte. Je sais que la peste de Babylone, j'allais presque dire de Rome, se déchaîne contre quiconque attaque les abus de ceux qui vendent Jésus-Christ. J'ai vu moi-même précipiter de la chair un prédicateur qui enseignait la vérité. Je l'ai vu, bien que ce fût un jour de fête, lié et traîné dans un cachot. D'autres ont vu des choses plus cruelles encore. C'est pourquoi, ô très cher, faites en sorte que son Altesse persiste dans ses sentiments. » L'ordre de comparaître à Augsbourg devant le cardinal légat arriva enfin. C'est à l'un des princes de l'Église de Rome que Luther allait maintenant avoir affaire. Tous ses amis le sollicitèrent de ne point partir. Il craignait que déjà, pendant le voyage, on ne lui tendît des pièges et qu'on attentât à sa vie. Quelques-uns s'occupaient à lui chercher un asile. Staupitz lui-même, le craintif Staupitz, se sentit ému à la pensée des dangers auxquels allait être exposé ce frère Martin, qu'il avait tiré de l'obscurité du cloître et qu'il avait lancé sur cette scène agitée où maintenant sa vie était en péril. Ah, n'eût-il pas mieux valu pour le pauvre frère demeurer à jamais inconnu? Il était trop tard. Du moins, il voulait tout faire pour le sauver. Il lui écrivit donc de son couvent de Salzbourg, le 15 septembre, pour le solliciter de fuir et de chercher un asile auprès de lui. « Il me semble, lui disait-il, que le monde entier est irrité et coalisé contre la vérité. Jésus, crucifié, fut haï de même. Je ne vois pas que vous ayez autre chose à attendre que la persécution. Personne ne pourra bientôt, sans la permission du pape, sonder les Écritures et y chercher Jésus-Christ, ce que Christ pourtant ordonne. Vous n'avez que peu d'amis, et plût à Dieu que la crainte de vos adversaires n'empêcha pas ce petit nombre de se déclarer en votre faveur. Le plus sage est que vous abandonniez pour quelque temps Wittenberg et que vous veniez vers moi. Alors nous vivrons et nous mourrons ensemble. C'est là aussi la vie du prince, ajoute Staupitz. De divers côtés, Luther recevait les avis les plus alarmants. Le comte Albert de Mansfeld lui fit dire de se garder de se mettre en route, attendu que quelques grands seigneurs avaient juré de se rendre maître de sa personne et de l'étrangler ou de le noyer. Mais rien ne pouvait l'épouvanter. il ne pensa point à profiter de l'offre du vicaire général. Il n'ira point se cacher dans l'obscurité du couvent de Salzbourg. Il demeurera fidèlement sur cette scène orageuse où la main de Dieu l'a placé. C'est en persévérant malgré les adversaires, c'est en proclamant à haute voix la vérité au milieu du monde que le règne de cette vérité s'avance. Pourquoi donc fuirait-il ? Il n'est pas de ceux qui se retirent pour périr, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Sans cesse retentit dans son cœur cette parole du Maître qu'il veut servir et qu'il aime plus que la vie. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. » On retrouve partout dans Luther et dans la Réformation ce courage intrépide, cette haute moralité, cette charité immense que le premier avènement du christianisme avait déjà fait voir au monde. « Je suis comme Jérémie, dit Luther au moment dont nous nous occupons, l'homme des querelles et des discordes, mais plus ils augmentent leurs menaces, plus ils multiplient ma joie. Ma femme et mes enfants sont bien pourvus, mes champs, mes maisons et tous mes biens sont en bon ordre. Ils ont déjà déchiré mon honneur et ma réputation. Une seule chose me reste, c'est mon misérable corps. Qu'ils le prennent, ils abrégeront ainsi ma vie de quelques heures. Mais quant à mon âme, ils ne me la prendront pas. Celui qui veut porter la parole de Christ dans le monde doit s'attendre à chaque heure à la mort, car notre époux est un époux de sang. » Livre de l'Exode, chapitre 4, verset 25. Les lecteurs se trouvaient alors à Augsbourg. Peu avant de quitter cette ville et la Diète, il avait pris sur lui de faire une visite au légat. Le cardinal, très flatté de cette prévenance d'un prince si illustre, promit à l'électeur que si le moine se présentait devant lui, il l'écouterait paternellement et le congédierait avec bienveillance. Spalatin écrivit à son ami, de la part du prince, que le pape avait nommé une commission pour l'entendre en Allemagne, que l'électeur ne permettrait pas qu'on le traînât à Rome et qu'il devait se préparer à partir pour Augsbourg. Luther résolut d'obéir. L'avis que le comte de Mansfeld lui avait fait parvenir le porta à demander à Frédéric un sauf-conduit. Celui-ci répondit que ce n'était pas nécessaire et lui envoya seulement des recommandations pour quelques-uns des conseillers les plus distingués d'Augsbourg. Il lui fit remettre quelque argent pour son voyage et le réformateur, pauvre et sans défense, partit à pied pour venir se mettre entre les mains de ses adversaires. Avec quel sentiment ne dut-il pas quitter Wittenberg et se diriger vers Augsbourg où le légat du pape l'attendait. Le but de ce voyage n'était pas, comme celui du voyage à Heidelberg, une réunion amicale. Il allait comparaître en présence du délégué de Rome sans sauf-conduit. Peut-être marchait-il à la mort. Mais sa foi n'était pas seulement une foi d'apparat. Elle était une réalité en lui. Aussi lui donna-t-elle la paix et put-il s'avancer sans crainte au nom du Dieu des armées pour rendre témoignage à l'Évangile. Il arriva à Weimar le 28 septembre et logea dans le couvent des Cordeliers. L'un des moines ne pouvait détourner de dessus de lui ses regards. C'était Myconius. Il voyait Luther pour la première fois. Il voulait s'approcher, lui dire qu'il lui devait la paix de son âme, que tout son désir était de travailler avec lui. Mais Myconius était gardé de près par ses chefs. On ne lui permit point de parler à Luther. L'électeur de Saxe tenait alors sa cour à Weimar, et c'est probablement pour cette cause que les Cordeliers firent accueil au docteur. Le lendemain de son arrivée, on célébrait la fête de Saint-Michel. Luther dit la messe, et fut même invité à prêcher dans l'église du château. C'était une marque de faveur que son prince aimait à lui donner. Il prêcha d'abondance, en présence de la cour, sur le texte du jour, qui était tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 11. Il parla avec force, contre les hypocrites et contre ceux qui se vantent de leur propre justice. Mais il ne parla point des anges, quoique ce fût la coutume le jour de la Saint-Michel. Ce courage du docteur de Wittenberg, qui se rendait tranquillement et à pied à un appel qui, pour tant d'autres avant lui, avait abouti à la mort, étonnait ceux qui le voyaient. L'intérêt, l'admiration, la compassion se succédaient dans les cœurs. Jean Ketzner, proviseur des Cordeliers, frappé d'épouvante à la pensée des dangers qui attendaient son hôte, lui dit « Mon frère, vous trouverez à Augsbourg des Italiens, qui sont de savantes gens, de subtils antagonistes et qui vous donneront beaucoup à faire. Je crains que vous ne puissiez défendre contre eux votre cause. Ils vous jetteront au feu et leurs flammes vous consumeront. » Luther répondit avec gravité, « Cher ami, priez notre Seigneur Dieu qui est dans le ciel et présentez-lui un paternoster pour moi et pour son cher enfant Jésus, dont ma cause est la cause, afin qu'il use de grâce envers lui. S'il maintient sa cause, la mienne est maintenue. Mais s'il ne veut pas la maintenir, certes, ce n'est pas moi qui la maintiendrai, et c'est lui qui emportera l'opprobre. » Luther continua à pied son voyage et arriva à Nuremberg. Il allait se présenter devant un prince de l'Église et il voulait être mis convenablement. L'habit qu'il portait était déjà vieux et avait d'ailleurs beaucoup souffert dans le voyage. Il emprunta donc un froc à son fidèle ami Wenceslas Link, prédicateur à Nuremberg. Luther ne se borna pas sans doute à voir Link. Il vit également ses autres amis de Nuremberg, Schörl, le secrétaire de la ville, l'illustre peintre Albert Dürer, auquel Nuremberg élève maintenant une statue et d'autres encore. Il se fortifia dans le commerce de ces excellents de la terre, tandis que beaucoup de moines et de laïcs s'effrayaient de son passage et essayaient de l'ébranler en le conjurant de rebrousser chemin. Des lettres qu'il écrivit de cette ville montrent l'esprit qui l'animait alors. « J'ai rencontré, dit-il, des hommes pusillanimes qui veulent me persuader de ne pas me rendre à Augsbourg. Mais je suis déterminé à y aller. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Même à Augsbourg, même au milieu de ses ennemis, Jésus-Christ règne. Que Christ vive, que Luther meure, et tout pécheur, selon ce qui est écrit. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Portez-vous bien, persévérez, demeurez ferme, car il est nécessaire d'être réprouvé ou par les hommes ou par Dieu. Mais Dieu est véritable et l'homme menteur. » Link et un moine augustin nommé Léonard ne purent se décider à laisser Luther marcher seul à la rencontre des dangers qui le menaçaient. Ils connaissaient son caractère et savaient que, plein d'abandon et de courage, il aurait peut-être peu de prudence. Ils l'accompagnèrent donc. Comme ils étaient à environ 5 lieues d'Augsbourg, Luther, que la fatigue du voyage et les agitations diverses de son cœur avaient sans doute épuisé, fut saisi de violentes douleurs d'estomac. Il crut en mourir. Ses deux amis, très inquiets, louèrent un char sur lequel on transporta le docteur. Ils arrivèrent à Augsbourg le vendredi 7 octobre au soir et descendirent au couvent des Augustins. Luther était très fatigué, mais il se remit bientôt. Sans doute sa foi et la vivacité de son esprit relevèrent promptement son corps affaibli. Livre 4, chapitre 5. Arrivé à Augsbourg, De Vio, son caractère, Serra Longa, conversation préliminaire, visite des conseillers, retour de Serra Longa, le prieur, sagesse de Luther, Luther et Serra Longa, le sauf-conduit, Luther à Melanchthon. À peine à Augsbourg et avant même d'y avoir vu personne, Luther, voulant rendre au légat tous les honneurs qui lui étaient dus, pria Wenceslas Link d'aller lui annoncer son arrivée. Link le fit et déclara humblement au cardinal, de la part du docteur de Wittenberg, que celui-ci était prêt à comparaître devant lui quand il l'ordonnerait. Le légat se réjouit à cette nouvelle. Il tenait donc enfin le fougueux hérétique. Il se promettait bien qu'il ne sortirait pas des murs d'Augsbourg comme il y était entré. En même temps que Link se rendait vers le légat, le moine Léonard partit pour aller annoncer à Stupitz l'arrivée de Luther à Augsbourg. Le vicaire général avait écrit au docteur qu'il viendrait certainement aussitôt qu'il le saurait dans cette ville. Luther ne voulait pas tarder un instant à lui faire connaître sa présence. La diète était terminée. L'empereur et les électeurs s'étaient déjà séparés. L'empereur, il est vrai, n'était pas parti, mais il se trouvait à la chasse dans les environs. L'ambassadeur de Rome restait donc seul à Augsbourg. Si Luther y était venu pendant la diète, il y eût trouvé de puissants défenseurs, mais tout semblait maintenant devoir plier sous le poids de l'autorité papale. Le nom du juge devant lequel Luther devait comparaître n'était pas propre à le rassurer. Thomas de Viau, surnommé Cajetan de la ville de Gaète dans le royaume de Naples où il était né en 1469, avait donné dès sa jeunesse de grandes espérances. À 16 ans, il était entré dans l'ordre des Dominicains contre la volonté expresse de ses parents. Plus tard, il était devenu général de son ordre et cardinal de l'Église romaine. Mais ce qui était pis pour Luther, ce savant docteur était l'un des plus zélés défenseurs de cette théologie scolastique que le réformateur avait toujours si impitoyablement traitée. Sa mère, assurait-on, avait rêvé durant sa grossesse que saint Thomas en personne instruirait l'enfant qu'elle mettrait au monde et l'introduirait dans le ciel. Aussi de Viau, en devenant dominicain, avait-il changé son nom de Jacques contre celui de Thomas. Il avait défendu avec zèle les prérogatives de la papauté et les doctrines de Thomas d'Aquin qu'il considérait comme le plus parfait des théologiens. Amateur de la pompe et de la représentation, il prenait presque au sérieux cette maxime romaine que les légats sont au-dessus des rois et s'entouraient d'un grand apparat. Le 1er août, il avait célébré dans la cathédrale d'Augsbourg une messe solennelle et en présence de tous les princes de l'Empire, il avait placé le chapeau de cardinal sur la tête de l'archevêque de Mayence, agenouillé devant l'autel, et remis à l'empereur lui-même le chapeau et l'épée consacrés par le pape. Tel était l'homme devant lequel le moine de Wittenberg allait comparaître, couvert d'un froc qui n'était pas même à lui. Au reste, la science du légat, la sévérité de son caractère et la pureté de ses mœurs lui assuraient en Allemagne une influence et une autorité que d'autres courtisans romains n'auraient pas facilement obtenues. Ce fut sans doute à cette réputation de sainteté qu'il dut sa mission. Rome avait compris qu'elle servirait admirablement ses vues. Ainsi, les qualités mêmes de Cajetan le rendaient plus redoutable encore. Du reste, l'affaire dont il était chargé était peu compliquée. Luther était déjà déclaré hérétique. S'il ne voulait pas se rétracter, le légat devait le faire mettre en prison. Et s'il lui échappait, il devait frapper d'excommunication quiconque oserait lui donner asile. Voilà ce qu'avait à faire de la part de Rome le prince de l'Église devant lequel Luther était cité. Luther avait repris des forces pendant la nuit. Le samedi matin, 8 octobre, déjà un peu reposé du voyage, il se mit à considérer son étrange situation. Il était soumis et il attendait que la volonté de Dieu se manifestât par les événements. Il n'eut pas longtemps à attendre. Un personnage qui lui était inconnu lui fit dire, comme s'il lui eût été entièrement dévoué, qu'il allait se rendre chez lui et que Luther devait bien se garder de paraître devant le légat avant de l'avoir vu. Ce message venait d'un courtisan italien nommé Urbain de Serralonga, qui avait été souvent en Allemagne comme envoyé du margrave de Montferrat. Il avait connu l'électeur de Saxe auprès duquel il avait été accrédité, et après la mort du margrave, il s'était attaché au cardinal de Viau. La finesse et les manières de cet homme formaient le plus frappant contraste avec la noble franchise et la généreuse droiture de Luther. L'Italien arriva bientôt au monastère des Augustins. Le cardinal l'a envoyé afin de sonder le réformateur et de le préparer à la rétractation qu'on attendait de lui. Serralonga s'imaginait que le séjour qu'il avait fait en Allemagne lui donnait de grands avantages sur les autres courtisans de la suite du légat. Il espérait avoir beau jeu de ce moine allemand. Il arriva accompagné de deux domestiques et se présenta comme venant de son propre mouvement, à cause de l'amitié qu'il portait à un favori de l'électeur de Saxe et de son attachement à la Sainte Église. Après avoir fait à Luther les salutations les plus empressées, le diplomate ajouta affectueusement « Je viens vous donner un bon et sage conseil. Rattachez-vous à l'Église, soumettez-vous sans réserve au cardinal, rétractez vos injures, rappelez-vous l'abbé Joachim de Florence. Il avait, vous le savez, dit des choses hérétiques, et cependant, il fut déclaré non hérétique parce qu'il rétracta ses erreurs. » Luther parla alors de se justifier. Serralonga, « Gardez-vous de le faire. Prétendriez-vous combattre comme en un tournoi le légat de sa sainteté ?» Luther, « Si l'on me prouve que j'ai enseigné quelque chose de contraire à l'Église romaine, je serai mon propre juge et je me rétracterai aussitôt. Le tout sera de savoir si le légat s'appuie sur saint Thomas plus que la foi ne l'y autorise. S'il le fait, je ne lui céderai pas. » Serralonga. « Et vous prétendez donc rompre des lances ?» Puis l'Italien se mit à dire des choses que Luther appelle horribles. Il prétendit que l'on pouvait soutenir des propositions fausses, pourvu qu'elles rapportassent de l'argent et qu'elles remplissent les coffres forts, qu'il fallait bien se garder de disputer dans les universités sur l'autorité du pape, qu'on devait au contraire maintenir que le pontife peut d'un clin d'œil changer, supprimer des articles de foi et autres choses semblables. Mais le rusé italien s'aperçut bientôt qu'il s'oubliait. Il en revint aux paroles douces et s'efforça de persuader à Luther de se soumettre en toute chose au légat et de rétracter sa doctrine, ses serments et ses thèses. Le docteur, qui dans le premier moment avait ajouté quelques fois aux belles protestations de l'orateur Urbain, comme il l'appelle dans ses rapports, se convainquit alors qu'elle se réduisait à peu de choses et qu'il était beaucoup plus du côté du légat que du sien. Il devint donc un peu moins communicatif et il se contenta de dire qu'il était tout disposé à montrer de l'humilité, à faire preuve d'obéissance et à donner satisfaction dans les choses où il se serait trompé. À ces paroles, Serra Longa s'écria tout joyeux « Je cours chez le légat, vous allez me suivre, tout ira le mieux du monde et ce sera bientôt fini. » Il sortit. Le moine saxon, qui avait plus de discernement que le courtisan romain, pensa en lui-même « Ce rusé sinon, par allusion à l'espion grec dans la guerre de Troie, s'est laissé bien mal dresser et bien mal instruire par ces Grecs. » Luther était suspendu entre l'espérance et la crainte. Cependant, l'espérance prit le dessus. La visite et les assertions étranges de Serra Longa, qu'il appelle plus tard un médiateur maladroit, lui firent reprendre courage. Les conseillers et les autres habitants d'Augsbourg, auxquels l'électeur avait recommandé Luther, s'empressèrent tous de venir voir le moine, dont le nom retentissait déjà dans toute l'Allemagne. Peutinger, conseiller de l'Empire, l'un des patriciens les plus distingués de la ville, qui invita souvent Luther à sa table, le conseiller Langemantel, le docteur Auerbach de Leipzig, les deux frères Adelmann, tous deux chanoines, plusieurs autres encore, se rendirent au couvent des Augustins. Ils abordèrent avec cordialité cet homme extraordinaire qui avait fait un long voyage pour venir se mettre entre les mains des suppôts de Rome. « Avez-vous un sauf-conduit ? » lui demandèrent-ils. « Non, répondit le moine intrépide. « Quelle hardiesse ! » s'écrièrent-ils alors. C'était, dit Luther, un mot honnête pour désigner « ma téméraire folie ». Tous, d'une voix unanime, le sollicitèrent de ne pas se rendre chez le légat avant d'avoir obtenu un sauf-conduit de l'empereur lui-même. Il est probable que le public avait déjà appris quelque chose du bref du pape dont le légat était porteur. « Mais, répliqua Luther, je me suis bien rendu sans sauf-conduit à Augsbourg et j'y suis arrivé à bon port. L'électeur vous a recommandé à nous, vous devez donc nous obéir et faire ce que nous vous disons, reprit Langemantel avec affection, mais avec fermeté. Le docteur Auerbach se joignit à ces représentations. « Nous savons, dit-il, qu'au fond du cœur, le cardinal est irrité au plus haut point contre vous. On ne peut se fier aux Italiens. » Le chanoine Adelmann insista de même. « On vous a envoyé sans défense et l'on a précisément oublié de vous pourvoir de ce dont vous aviez le plus besoin. » Ses amis se chargèrent d'obtenir de l'empereur le sauf-conduit nécessaire. Ils dirent ensuite à Luther combien de personnes, même d'un rang élevé, penchaient en sa faveur. Le ministre de France lui-même, qui a quitté il y a peu de jours Augsbourg, a parlé de vous de la manière la plus honorable. Ce propos frappa Luther, et il s'en ressouvint plus tard. Ainsi, ce qu'il y avait de plus respectable dans la bourgeoisie de l'une des premières villes de l'Empire était déjà gagné à la Réformation. On en était là de l'entretien lorsque Serra Longa reparut. « Venez, dit-il à Luther, le cardinal vous attend. Je vais moi-même vous conduire vers lui. Apprenez comment vous devez paraître en sa présence. Quand vous entrerez dans la salle où il se trouve, vous vous prosternerez devant lui la face contre terre. Quand il vous aura dit de vous lever, vous vous mettrez à genoux et pour vous tenir debout, vous attendrez encore qu'il vous l'ordonne. Rappelez-vous que c'est devant un prince de l'Église que vous allez comparaître. » Du reste, ne craignez rien, tout se terminera vite et sans difficulté. Luther, qui avait promis à cet Italien de le suivre dès qu'il l'y inviterait, se sentit embarrassé. Cependant, il n'hésita pas à lui faire part du conseil de ses amis d'Augsbourg, et il lui parla d'un sauf-conduit. « Gardez-vous bien d'en demander un, » reprit aussitôt Serra Longa. « Le légat est bien disposé et tout prêt à finir la chose amicalement. Si vous demandez un sauf-conduit, vous gâterez toute votre affaire. » « Mon gracieux seigneur, l'électeur de Saxe, répondit Luther, m'a recommandé en cette ville à plusieurs hommes honorables. Il me conseille de ne rien entreprendre sans sauf-conduit. Je dois suivre leur avis, car si je ne le faisais pas et qu'il arrivât quelque chose, ils écriraient à l'électeur, mon maître, que je n'ai pas voulu les écouter. » Luther persista dans sa résolution et Serra Longa se vit obligé de retourner vers son chef pour lui annoncer l'écueil qu'avait rencontré sa mission au moment où il se flattait de l'avoir couronné de succès. Ainsi se terminèrent les conférences de ce jour avec l'orateur de Montferrat. Une autre invitation fut adressée à Luther, mais dans une intention bien différente. Le prieur des Carmélites, Jean Froch, était son ancien ami. Il avait soutenu des thèses 2 ans auparavant comme licencié en théologie sous la présidence de Luther. Il vint le voir et le pria instamment de venir demeurer chez lui. Il réclamait l'honneur d'avoir pour hôte le docteur de l'Allemagne. Déjà, l'on ne craignait pas de lui rendre hommage en présence de Rome. Déjà, le faible était devenu le plus fort. Luther accepta et se rendit du couvent des Augustins à celui des Carmélites. Le jour ne se termina pas sans qu'il fît de sérieuses réflexions. L'empressement de Serra Longa et les craintes des conseillers lui faisaient également comprendre la position difficile dans laquelle il se trouvait. Néanmoins, il avait pour protecteur le Dieu qui est dans le ciel et gardé par lui, il pouvait s'endormir sans frayeur. Le lendemain était un dimanche. Il eut ce jour-là un peu plus de repos. Cependant, il dut endurer un autre genre de fatigue. Il n'était question dans toute la ville que du docteur Luther. Et tout le monde désirait voir, comme il l'écrit à Mélenchon, ce nouvel Hérostrate qui avait allumé un si immense incendie. On se pressait sur ses pas, et le bon docteur souriait sans doute de ce singulier empressement. Mais il dut subir encore un autre genre d'importunité. Si l'on était désireux de le voir, on l'était encore plus de l'entendre. De tous côtés, on lui demandait de prêcher. Luther n'avait pas de plus grande joie que d'annoncer la parole. Il eût été doux pour lui de prêcher Jésus-Christ dans cette grande ville et dans les circonstances solennelles où il se trouvait. Mais il montra en cette occasion, comme en beaucoup d'autres, un sentiment très juste des convenances et beaucoup de respect pour ses supérieurs. Il refusa de prêcher, dans la crainte que le légat ne pût croire qu'il le faisait pour lui faire de la peine et pour le braver. Cette modération et cette sagesse valaient bien un sermon, sans doute. Cependant, les gens du cardinal ne le laissaient pas tranquille. Ils revinrent à la charge. « Le cardinal, lui dirent-ils, vous fait assurer de toute sa grâce et sa faveur. Pourquoi craignez-vous ? » Il s'efforçait, en lui alléguant 1000 raisons, de le décider à se rendre auprès de lui. « C'est un père plein de miséricorde, lui dit l'un des envoyés. » Mais un autre, s'approchant, lui dit à l'oreille, « Ne croyez pas ce que l'on vous dit, il ne tient pas sa parole. » Luther demeura ferme dans sa résolution. Le lundi matin, 10 octobre, Serra Longa revint encore à la charge. Le courtisan s'était fait un point d'honneur de réussir dans sa négociation. À peine arrivé, « Pourquoi, dit-il en latin, ne venez-vous pas chez le cardinal ? Il vous attend plein d'indulgence. Il ne s'agit pour vous que de 6 lettres. Révoca, rétracte, venez, vous n'avez rien à craindre. » Luther pensa en lui-même que c'était des lettres importantes que ces 6 lettres-là. Mais sans entrer en discussion sur le fond de la chose, il répondit « Dès que j'aurai obtenu le sauf-conduit, je comparaîtrai. » Serra Longa s'emporta en entendant ces paroles. Il insista, il fit de nouvelles représentations, mais il trouva Luther inébranlable. Alors, s'irritant toujours plus, « Tu t'imagines sans doute, s'écria-t-il, que l'électeur prendra les armes en ta faveur et s'exposera pour toi à perdre les pays qu'il a reçus de ses pères. » Luther, « Dieu m'en garde. » Serra Longa, « Abandonné de tous, où donc te réfugieras-tu ? » Luther, élevant en haut le regard de la foi, sous le ciel. Serra Longa, demeurant un instant silencieux, frappé de cette réponse sublime à laquelle il ne s'attendait pas, puis continuant ainsi, « Que ferais-tu si tu avais entre tes mains le légat, le pape et tous les cardinaux, comme maintenant ils t'ont dans les leurs ? » Luther, « Je leur rendrai tout respect et tout honneur, mais la parole de Dieu passe pour moi avant tout. » Serra Longa, riant et agitant un de ses doigts à la manière italienne. « Tout honneur, je n'en crois rien !» Puis il sortit, sauta en selle et disparut. Serra Longa ne revint plus chez Luther, mais il se rappela longtemps et la résistance qu'il avait trouvée chez le réformateur et celle que son maître dut bientôt éprouver lui-même. Nous le retrouverons plus tard, demandant à grands cris le sang de Luther. Il n'y avait pas longtemps que Serra Longa avait quitté le docteur lorsque celui-ci reçut enfin le sauf-conduit qu'il désirait. Ses amis l'avaient obtenu des conseillers de l'Empire. Il est probable que ceux-ci avaient consulté à cet égard l'empereur, qui n'était pas loin d'Augsbourg. Il paraîtrait même, d'après ce que le cardinal dit plus tard, que ne voulant pas l'offenser, on lui demanda son consentement. Peut-être est-ce pour cela que Devio fit travailler Luther par Serra Longa, car s'opposer ouvertement à ce qu'on donnât un sauf-conduit eût été révéler des intentions qu'on voulait tenir cachées. Il était plus sûr de porter Luther lui-même à se désister de sa demande, mais on s'aperçut bientôt que le moine saxon n'était pas homme à plier. Luther va comparaître. En demandant un sauf-conduit, il ne s'est pas appuyé sur un bras charnel, car il sait fort bien qu'un sauf-conduit impérial n'a pas sauvé Jan Hus des flammes. Il a seulement voulu faire son devoir en se soumettant aux avis des amis de son maître. L'Éternel en décidera. Si Dieu lui redemande sa vie, il est prêt à la donner joyeusement. En ce moment solennel, il éprouve le besoin de s'entretenir encore avec ses amis, surtout avec ce Mélenchon, déjà si cher à son cœur, et il profite de quelques instants de solitude pour lui écrire. « Comporte-toi un homme, lui dit-il, comme d'ailleurs tu le fais. Enseigne à notre chère jeunesse ce qui est droit et selon Dieu. Pour moi, je vais être immolé pour vous et pour elle, si c'est la volonté du Seigneur. J'aime mieux mourir, et même, ce qui serait pour moi le plus grand malheur, être privé éternellement de votre douce société, que de rétracter ce que j'ai dû enseigner et de perdre ainsi, peut-être par ma faute, les excellentes études auxquelles nous nous adonnons maintenant. » L'Italie est plongée, comme autrefois l'Égypte, dans des ténèbres si épaisses qu'on peut les toucher de la main. Personne n'y sait rien de Christ, ni de ce qui se rapporte à lui, et cependant, ils sont nos seigneurs et nos maîtres pour la foi et pour les mœurs. Ainsi, la colère de Dieu s'accomplit sur nous, comme parle le prophète, « Je leur donnerai des jeunes gens pour gouverneurs et des enfants domineront sur eux. Comporte-toi bien selon le Seigneur, mon cher Philippe, et éloigne la colère de Dieu par des prières ferventes et pures. » Le légat a informé que Luther devait comparaître le lendemain devant lui, réunit les Italiens et les Allemands en qui il avait le plus de confiance, afin de considérer avec eux comment il fallait agir avec le moine saxon. Les avis furent partagés. « Il faut, dit l'un, le contraindre à se rétracter. Il faut le saisir, dit un autre, et le mettre en prison. » Un troisième pensa qu'il valait mieux s'en défaire. Un quatrième qu'on devait essayer de le gagner par la bonté et la douceur. Le cardinal paraît s'être arrêté d'abord à ce dernier avis.